Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Aujourd'hui, dans cette sixième émission, j'ai envie de revenir sur la thématique du slow avec le thème de ralentir dans un milieu urbain. Dans quelle mesure est-ce possible de retrouver un rythme plus sain dans un environnement où on a de longs temps de transport, des distractions constantes ou encore des obligations de plus en plus urgentes ? Alors, on ne va pas aborder tous les aspects de cette question en 20 minutes d'émission, mais je voulais lancer les premières pistes de réflexion autour du sujet avec les premiers conseils concrets qui fonctionnent pour moi à Paris, en espérant que vous pourrez peut-être les adapter à votre vie à vous, si vous avez envie de ralentir vous aussi, malgré le tumulte de la vie moderne. Quand je suis arrivée à Tokyo en 2006, ce qui m'a le plus choquée, c'est la rapidité de mouvement de la ville. Les métros qui arrivent et repartent toutes les minutes, les gens qui se précipitent dans les couloirs des gares et dans les rues, les écrans lumineux et les musiques promotionnelles qui émanent des magasins tout autour, c'est vraiment étourdissant. Mais l'autre chose qui m'a surprise, un an plus tard à mon retour à Lyon, qui est un environnement urbain certes mais plus calme que Tokyo, c'est que je m'y étais habituée à ce rythme effréné. Moi aussi, je me suis surprise à me précipiter dans la rue, dans les stations de métro. Le rythme de la ville s'était vraiment imprégné en moi. Et il m'a fallu une prise de conscience, notamment de la part de mes amis qui m'ont fait remarquer mon comportement un petit peu étrange depuis mon retour du Japon, et la mise en place de changements intentionnels pour arriver à ralentir un petit peu la cadence. L'avantage, c'est que ces petits exercices, trouvés à l'époque pour récupérer de l'accélération tokyoïte, m'aident aujourd'hui pour trouver mon propre rythme dans la vie parisienne. Le rythme de l'environnement dans lequel vous vivez, vous n'avez pas le contrôle dessus. Votre temps de trajet du matin, par exemple, l'énervement des conducteurs dans les bouchons ou des passagers dans les couloirs du métro ou de la gare, tout ça, vous n'y pouvez rien. Au travail, si votre patron vous met la pression pour finir un dossier en urgence, vous n'y pouvez rien non plus. En tout cas, pas à court terme. Puisque aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des pistes que vous pouvez appliquer dès maintenant, sans entrer dans des questions de déménagement ou de changement d'emploi. L'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous avez le contrôle, sur lesquelles vous avez un petit peu de pouvoir dans votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle est trépidante, même si elle est moderne, même si elle est urbaine. Donc il existe un certain nombre de choses qui dépendent de vous et sur lesquelles vous avez un contrôle, contrairement à ce qu'on peut croire lorsqu'on subit le rythme effréné de la ville. En d'autres termes, vous pouvez choisir de vous laisser embarquer dans cette accélération constante, ou bien vous pouvez moduler les choses sur lesquelles vous avez un contrôle pour ralentir un peu et trouver un rythme qui vous correspond personnellement. Alors attention, votre propre rythme ne veut pas forcément dire aussi lent que possible. On n'est pas dans une sorte de course à la lenteur, pour ainsi dire. De la même manière que dans le minimalisme, on n'est pas dans une course pour posséder le moins d'objets possible. C'est la même chose. Là, l'idée, dans en tout cas ma vision du slow que j'ai envie de partager avec vous dans Simplicité, c'est de vous mettre en cohérence avec un rythme de vie qui vous correspond à vous. Et ce rythme-là sera peut-être plus rapide pour certains et plus lent pour d'autres. Par exemple, moi personnellement, je continue à marcher très vite dans la rue. Parce que marcher est mon mode de transport quotidien principal, du coup j'ai envie que ce soit efficace. Et en plus, j'aime bien la marche rapide pour mettre un petit peu mon système cardiovasculaire en mouvement, sachant que je pratique par ailleurs un métier qui est extrêmement sédentaire. En gros, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de reprendre le contrôle sur votre temps et d'apprendre à changer peu à peu votre rapport au temps pour trouver des solutions qui s'accommodent, des contraintes de vie que vous ne pouvez pas changer bien sûr, mais aussi des solutions qui s'adaptent à votre rythme à vous quand c'est possible. Tout d'abord, j'ai envie de vous parler un petit peu des avantages de ralentir. Parce que peut-être qu'en écoutant ce début de podcast, vous vous demandez « Mais pourquoi est-ce que j'aurais envie de ralentir ?» Après tout, la société valorise énormément la vitesse de nos jours. Aussi bien dans la technologie, dans les transports, dans les communications, dans les livraisons des objets qu'on commande sur Internet. Tout ce qui est plus rapide, tout ce qui est immédiat, tout ce qui est instantané, est considéré comme moderne, considéré comme du progrès, considéré comme quelque chose d'efficace et comme quelque chose de positif. C'est bien vu de tout faire, c'est productif, c'est efficace. À l'inverse, la lenteur, c'est un petit peu mal vu, c'est un peu vu comme quelque chose pour les vieux, pour les gens un petit peu idiots, comme on dit, il est un peu lent celui-là, vous voyez. Ça montre que globalement, on a une dépréciation de l'idée de lenteur dans la société d'aujourd'hui. Sans compter que d'être occupé tout le temps est un signe de réussite sociale. Là où être un petit peu oisif, avoir du temps libre, ça veut dire que les gens n'ont pas besoin de vous. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas important. Et donc même si on pousse le raisonnement plus loin, ça veut dire que vous êtes potentiellement un poids, une charge pour votre famille ou pour la société. Donc là, je grossis le trait volontairement pour vous montrer que dans la société actuelle, c'est difficile de ralentir la cadence parce que l'accélération, la rapidité, le fait d'être occupé tout le temps, ce sont des choses qui sont vues comme des qualités. Alors pourquoi auriez-vous envie de ralentir si justement tout ça ce sont des qualités, l'accélération et le fait d'être occupé? Alors je ne vais pas détailler tous les bénéfices dans un seul épisode, je vais simplement mettre le doigt sur ce qui me paraît très important aujourd'hui. Donc la première chose c'est que le stress ce n'est pas bon pour la santé. Donc le docteur Serge Marquis, M-A-R-Q-U-I-S, a beaucoup étudié tout au long de sa carrière les effets du stress sur ses patients, notamment du stress au travail, le burn-out, etc., et toutes les conséquences plus ou moins graves que tout ça peut avoir sur la santé, sachant que c'est un médecin qui est spécialisé en santé du travail. Selon lui, l'état de stress nous vient de nos ancêtres des cavernes, c'est-à-dire que dans la jungle, lorsqu'on était en train de faire notre cueillette ou notre chasse, on avait intérêt à être sur le qui-vive, parce que si un tigre nous tombait dessus, il fallait être très réactif et savoir fuir ou éventuellement contre-attaquer très vite pour pouvoir survivre. Donc le stress dans notre cerveau, c'est un réflexe de survie. Le truc, c'est qu'à cette époque-là, lorsque vous aviez fini votre chasse ou votre cueillette et que vous étiez de retour dans la sécurité de la tribu, eh bien le corps n'était plus stressé, c'était un état de relaxation. Le stress était comme des pics ponctuels pour permettre la survie de l'individu, mais ce n'était pas quelque chose de constant. Or, aujourd'hui, beaucoup de citadins sont stressés tous les jours, toute la journée, que ce soit par le rythme effréné de la ville, par la pression au travail, par les transports, etc. etc. Le truc, c'est que notre corps n'est pas fait pour être stressé en permanence. Pour lui, c'est comme si notre vie était en danger en permanence finalement. Donc cela crée des dysfonctionnements importants au niveau de notre santé, le fait d'avoir du stress de manière chronique, des problèmes de sommeil, des ulcères et plein d'autres choses. Alors je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne suis pas moi-même une professionnelle de santé, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire ce qu'a écrit ou ce qu'a partagé en vidéo par exemple Serge Marquis sur le sujet, lui ou d'autres professionnels de santé qui vous parlent de stress hein, d'ailleurs. Ensuite, deuxième chose, et c'est lié d'ailleurs au stress, la vie est quand même beaucoup plus confortable quand on a l'impression d'avoir le temps de faire les choses. Serge Marquis, encore lui, a explicité un concept que je trouve très intéressant, que j'ai envie de partager avec vous, qui est le concept d'humanitude. L'humanitude, ce sont nos limites d'être humain. Par exemple, lorsqu'il y avait à l'époque une seule chaîne de télévision, le soir, vous aviez une décision assez simple à prendre. Soit le programme vous intéressait et vous regardez la télé, soit le programme ne vous intéressait pas et vous faisiez autre chose. Par exemple, vous avez peut-être une petite bibliothèque dans votre intérieur et vous choisissiez de lire un de vos quelques livres que vous aviez chez vous. Aujourd'hui, on a quelque chose comme 300 chaînes à disposition pour celles et ceux qui ont le câble, plus YouTube, plus Netflix, plus les jeux vidéo et tous les autres loisirs possibles, par exemple la lecture, au lieu des 10 livres qu'il y a sur l'étagère, certains d'entre nous ont une liseuse sur laquelle il y a accès à des centaines de milliers d'ouvrages. Et du coup, on se rend bien compte qu'en 24 heures, avec un seul cerveau, deux yeux, deux oreilles, deux bras, deux jambes, c'est impossible de tout regarder, de tout lire, de tout écouter, etc., même si on se limite à des programmes ou à des loisirs qui peuvent potentiellement nous intéresser. C'est-à-dire que même en supprimant tous les trucs dont on n'a rien à faire, il y en a quand même trop et on ne peut pas tout faire, tout voir, tout écouter. C'est ça l'humanitude, c'est ça être confronté à son humanitude. C'est se rendre compte que dans le monde qui nous entoure, il y a beaucoup trop de choses disponibles et qu'on va finalement rater 99% de ces choses-là. Et c'est la même chose avec l'accélération des communications, la mise à disposition de toutes les informations via Internet. Alors Internet, c'est un super truc. Le fait d'avoir beaucoup de choix, et par exemple d'avoir accès à beaucoup plus d'informations qu'avant, c'est super bien, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Le problème, c'est qu'on ressent une intense frustration et finalement une grande fatigue lorsqu'on est mis face à cette limite de nous-mêmes. Donc c'est ça que Serge Marquis appelle être confronté à son humanitude. Et plus on vit dans un rythme accéléré, plus on vit dans une société avec des technologies instantanées et avec des informations disponibles tout le temps, plus on est confronté souvent à cette limite, à cette humanitude. Et c'est quelque chose qui génère du stress, qui génère de la frustration, etc. À l'inverse, lorsqu'on ralentit le rythme, on se retrouve moins confronté à son humanitude puisqu'on fait le choix d'en faire moins, mais de le faire bien. On choisit consciemment ce à quoi on veut passer son temps. Et en faisant cette sélection, on accepte que tout le reste, on ne prendra pas le temps de le faire. Et c'est pas grave, puisqu'on a choisi avec intention comment passer notre temps. Et en fait, en renonçant à tous les programmes télé ou tous les jeux vidéo, tous les livres qu'on n'aura pas le temps de lire, ça permet de se libérer l'esprit et de vraiment pouvoir se consacrer avec intention et avec plaisir aussi à l'émission de télé ou au film ou au livre qu'on aura choisi de regarder ou de lire ce soir-là. Pour cette deuxième partie de cette émission de Simple et Cité, j'ai envie de vous présenter quelques idées d'habitudes ou de conseils à mettre en place dès maintenant, si vous avez été convaincu par ce que je vous expliquais jusqu'à maintenant et que vous souhaitez apporter un petit peu plus de lenteur et de sérénité dans votre vie, malgré le fait que vous vivez dans la société moderne, dans un monde urbain. Alors, petit 1, limitez et choisissez vos engagements dans votre emploi du temps. Alors ça paraît évident, et ça rejoint ce que je viens de vous expliquer à propos de l'humanitude, mais une des sources de stress principales qu'on a dans le monde moderne, c'est qu'on cherche à en faire trop dans une journée, dans une semaine, dans un week-end par exemple, hein, c'est typique de faire toute une liste de tâches pour le week-end ou les vacances qu'on a repoussées, et d'arriver le dimanche soir ou d'arriver à la fin des vacances en se disant « bon sang, j'ai pas fait la moitié de ce que je m'étais dit que j'allais faire », et ça crée encore une fois de la frustration parce qu'on est confronté à nos limites et on a l'impression de pas avoir assez de temps. Donc une réponse à ça, vu qu'on ne peut pas augmenter le temps qu'on a de disponible dans une journée, c'est de mettre moins de tâches sur notre liste et de prioriser. Appliquez le mantra, faites-en moins, mais faites-le bien. Une première chose, donc sortie évidemment des contraintes de la vie et des choses qui sont des priorités par contrainte, hein, avec le temps qui vous reste, je vous invite à apprendre plus facilement à dire non à des choses qui vous tentent pas plus que ça. Personnellement, j'ai deux critères en fait auxquels je réfléchis lorsqu'on me propose quelque chose, que ce soit quelque chose de perso, comme par exemple une sortie entre amis, ou quelque chose de professionnel, comme par exemple une nouvelle mission ponctuelle. C'est je me demande, petit 1, est-ce que ça m'enthousiasme? Est-ce que quand on me propose la chose, je me dis « ah oui, trop bien, j'ai vraiment envie, ça a l'air super sympa, etc. » Est-ce que ça m'enthousiasme? Et la deuxième chose que je me demande, c'est est-ce que ça va m'apporter quelque chose par rapport à mes objectifs de vie? Est-ce que ça va m'apporter des contacts? Est-ce que ça va m'apporter de l'apprentissage? Est-ce que ça va m'apporter une nouvelle expérience qui va m'être utile? Que ce soit pareil d'un point de vue pro ou perso. Est-ce que ça va me permettre par exemple de revoir un ami que j'ai pas vu depuis très longtemps? Ou est-ce que ça va me permettre d'être en contact avec un nouveau type de client pour qui je n'ai jamais travaillé jusqu'à maintenant? Donc voilà, deux critères que j'utilise. Est-ce que ça m'enthousiasme et est-ce que ça m'est utile? Et ce que je fais, c'est que si ça ne remplit pas l'un de ces deux critères, je dis non. Si ce n'est pas un oui franc, c'est un non franc. Et vous aussi, je vous invite à apprendre à dire non, parce que votre temps est précieux. Et dire non à quelque chose qui vous plaît moyennement, c'est libérer du temps pour ce qui compte vraiment pour vous, que ce soit vos projets, vos proches, etc. Donc quand vous dites non, dites-vous qu'en fait, vous êtes en train de dire oui à autre chose. Et ça, les gens sont capables de l'entendre. Quand vous leur dites « je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir accepter parce que j'ai d'autres engagements qui sont très importants pour moi », la plupart des gens sont capables de le comprendre. Cette règle-là, je l'applique aussi pour une sélection drastique des loisirs que je consomme et des divertissements et de la culture que je consomme. Donc là encore, ça rejoint l'humanitude. Par exemple, jusque récemment, je me sentais obligée de finir un livre ou un film ou une saison de série que j'avais commencé à regarder en me disant « si je ne regarde pas l'œuvre dans son ensemble, je ne peux pas me faire une idée, même si a priori ça ne me plaît pas ». Et bien maintenant, je n'ai plus aucun scrupule. Si un livre ne me plaît pas dans ses 50 premières pages, j'arrête. Si une série ne me plaît pas au bout de 2-3 épisodes, j'arrête. Si un film m'ennuie au bout de 20 minutes de film, j'arrête. Parce que mon temps est précieux et que je préfère utiliser ce temps-là à lire un livre ou à regarder une série qui me plaît vraiment. Puisque vu la quantité d'offres qu'il y a aujourd'hui, je vais forcément trouver quelque chose qui me plaira mieux. Donc vous aussi, je vous invite, que ce soit votre consommation culturelle, que ce soit un nouveau loisir que vous testez ou quoi, si vous vous rendez compte que ça ne vous plaît finalement pas tant que ça, ne perdez pas votre temps. N'ayez aucun scrupule à arrêter en cours de route pour passer à autre chose qui vous plaira vraiment. Finalement, c'est pas grave de rater 99,9% de la production artistique humaine, parce que de toute façon, vous allez la rater. Donc au lieu de perdre du temps avec quelque chose qui va vous frustrer parce que ça vous plaît pas vraiment, je vous invite plutôt à choisir avec intention et à être très drastique dans votre sélection de culture ou de loisirs auxquels vous choisissez de passer votre temps. Deuxième conseil que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est mettez vos tâches dans votre calendrier. Alors ce conseil-là, c'est une amie homéopathe qui me l'a donné à l'époque où j'étais très stressée par mon emploi juste avant de le quitter. Et elle m'a dit que les gens stressés souvent perdaient la notion du temps. Peut-être parce que notre cerveau est en mode survie quand il est stressé, si vous vous rappelez ce que je vous disais à propos de la théorie de Serge Marquis. Et du coup, on perd notre rationalité face au temps que prennent vraiment les choses. On se retrouve pressé, on se retrouve sous pression en fait, et à vouloir mettre plein de choses dans notre calendrier. Et on se retrouve bien souvent à sous-évaluer le temps que prend vraiment une tâche. Et c'est comme ça qu'on se retrouve hyper stressé en fin de journée, parce qu'on avait mis trop de choses dans notre calendrier, on s'est précipité toute la journée, et on est frustré parce qu'il y a tout un tas de tâches qu'on n'a pas eu le temps d'accomplir. Du coup, une technique d'organisation qui est simple mais très efficace, c'est vous mettez vos tâches dans votre calendrier. Premièrement, lorsque vous planifiez quelque chose dans votre agenda, vous avez plus de chances que ce soit fait, plutôt que de stresser à l'idée d'avoir ce fameux rendez-vous chez le médecin que vous devez prendre depuis 2 mois, que vous n'avez toujours pas pris. Et ça aussi, ça stresse le fait d'avoir des tâches importantes qui ne sont pas faites. Donc, par exemple, voilà, dès que vous vous dites « il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin », vous prenez le rendez-vous immédiatement et vous le mettez dans votre agenda. Donc mettez dans votre agenda les tâches importantes et bloquez le temps pour le faire. Pour reprendre l'exemple du rendez-vous chez le médecin, s'il vous faut une demi-heure pour aller au cabinet, une demi-heure d'attente en moyenne, une demi-heure de consultation et une demi-heure pour revenir, il faut vous bloquer un bloc de 2 heures dans votre emploi du temps autour de l'heure de rendez-vous chez votre médecin. Et donc ça, c'est le premier conseil. Mettez bien dans votre agenda à l'avance les tâches ou même les loisirs, etc. si vous voulez être sûr de prendre le temps de le faire. Et le deuxième conseil qui découle de ça aussi, c'est que votre liste de tâches de la journée, par exemple, ou de la semaine, au lieu de le mettre simplement comme une liste de tâches, mettez-le dans votre agenda. Par exemple, si vous avez des courses à faire et qu'il vous faut 1 heure, encore une fois, pour aller au supermarché, faire vos courses et revenir chez vous, mettez pas juste petit trait « course », vous vous mettez 1 heure entre 9h et 10h du matin, samedi, course. Comme ça, si vous mettez vos tâches les plus prenantes dans votre agenda, que vous vous rendez compte que vous avez un rendez-vous client qui vous prend 2h le matin, vous avez un déjeuner avec les collègues déjà prévu qui va aussi vous prendre 2h à midi, et que vous avez une présentation à faire qui va vous prendre 3h dans l'après-midi, et bien une fois que vous avez mis tout ça dans votre agenda, que vous avez bloqué le temps dans votre timing de votre journée, en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'avez le temps pour rien d'autre. Et du coup, au lieu de vous mettre d'autres tâches et d'être frustré le soir parce qu'elles ne sont pas cochées, vous allez de base prioriser, ne mettre que les tâches qui doivent absolument être faites aujourd'hui, et le reste, vous allez le décaler au lendemain ou à plus tard dans la semaine. Donc, cette petite technique d'organisation, elle vous aide aussi à prioriser vos tâches et à choisir ce qui doit absolument être fait aujourd'hui, et ça vous aide aussi à en mettre juste ce qu'il faut dans la journée et à ne pas trop en mettre par rapport au temps que vous avez à disposition. Et du coup, ça c'est bien parce que ça permet d'être plus serein, parce que vous voyez pas la journée avancer et la liste de tâches qui diminue pas et que ça vous stresse, voilà, ça permet de réduire un petit peu le stress. Donc je pense qu'on reparlera d'organisation dans le cadre d'une vie plus sereine dans une émission dédiée. Mais déjà, ce premier conseil, je pense qu'il peut être très utile. Donc, c'est une technique qui s'appelle Time Block, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc, la technique de mettre vos tâches dans votre calendrier et de bloquer le vrai temps nécessaire pour accomplir ces tâches. Troisième conseil qui découle du deuxième, qui va être de planifier large dans votre agenda, de partir plus tôt, etc. Donc là c'est pareil, ça va se combiner avec le fait de mettre vos tâches dans le calendrier, parce que l'idée ça va être de choisir une plage de temps un peu plus large que ce que vous pensez avoir vraiment besoin. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant dans l'événementiel. Parce que quand on organise un événement professionnel pour des journalistes, par exemple, on peut être tenté de mettre un maximum de choses dans une journée pour rentabiliser, entre guillemets, le temps de présence des journalistes. Le problème, c'est que dès qu'il y a le moindre souci, par exemple le taxi qui est bloqué dans le trafic, et bien tout prend du retard et tout le monde est stressé et le journaliste n'a pas le temps de faire son interview comme il avait prévu et du coup son travail est moins bien fait et personne n'est content. Ce que j'ai appris en devenant plus experte dans l'organisation d'événements, c'est justement de planifier large. C'est-à-dire qu'au lieu de remplir l'agenda à la minute près, eh bien, c'est organiser des demi-heures de battement, voire des heures de battement à la fin de la journée, de manière à pouvoir pallier les potentiels problèmes. Et même, c'est mieux pour les journalistes aussi, puisqu'ils ont davantage de temps pour faire leurs interviews et pour récupérer leur matière de travail qui leur permet ensuite de faire des articles de qualité, ce qui est quand même le but de ce type d'événement professionnel. Et en fait, j'ai appris à appliquer cet apprentissage, cette leçon professionnelle autour des événements pour planifier mon agenda personnel de manière large. Par exemple, si j'ai un rendez-vous à 10h et que j'ai un autre rendez-vous à 14h, eh bien, je ne vais pas caler de rendez-vous à 11h30. Parce que je sais que les rendez-vous, ça va prendre du temps d'y aller, on ne sait pas combien de temps ça va vraiment durer, il y a le repas à mettre au milieu. Voilà, je vais planifier large, je vais éviter de trop remplir mon agenda. Je vais par exemple partir plus tôt, par exemple s'il faut 45 minutes pour aller à l'aéroport, je vais avoir tendance à partir une heure et quart avant, pour être sûre de pouvoir pallier les problèmes de RER, les problèmes de trafic, n'importe quoi. Et ça permet aussi d'être plus serein dans les transports, parce que vous savez que s'il y a un problème, vous avez vu large, vous avez planifié à l'avance et vous êtes moins stressé. Et tout ça, ça rentre finalement dans ce mantra que je vous invite à garder en tête qui est « faites-en moins, mais faites-le bien ». Voilà, donc c'est vraiment prioriser, mettez vos tâches dans votre agenda, planifiez large, faites-en moins, mais faites-le bien. Enfin, dernier conseil, qui rentre également dans le « faites-en moins, mais faites-le bien » si on regarde bien, et qui concerne un petit peu la modification de son rapport au temps, c'est le fait de prendre le temps de savourer le moment présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons tous dans notre journée des trucs un petit peu chiants, que ce soit le fait de faire la queue à la caisse, ou d'attendre au cabinet du médecin, ou d'attendre à l'aéroport, ou de devoir faire la vaisselle, faire du ménage, etc. On peut considérer ça comme une perte de temps, et de choses qu'on veut expédier le plus rapidement possible ou être le plus possible en flux tendu pour gagner du temps sur ces contraintes-là. Donc ça, c'est une certaine perception du temps. Ou bien, on peut avoir une autre perception qui est de tirer parti de ces moments où, de toute façon, on ne peut pas y couper. Donc, au lieu d'essayer de le faire le plus vite possible et que ce soit désagréable et stressant parce qu'on se précipite, est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour le savourer et en profiter ? Par exemple, dans mon travail, je voyage pas mal et je voyage pas mal en avion. Et au début, j'étais hyper frustrée parce que par rapport à l'enregistrement des bagages, etc., si vous avez déjà pris l'avion, vous savez de quoi je parle. On arrive généralement 1h30, 2h à l'avance à l'aéroport et on se retrouve à poireauter au terminal de l'aéroport pendant 1h, 1h30. On a l'impression que c'est une perte de temps affreuse. Et moi, j'ai eu très longtemps cette frustration avec l'impression que c'était une perte de temps affreuse. Et puis, j'ai décidé de changer mon rapport au temps par rapport à cette attente dans l'aéroport. Et j'ai décidé d'en faire un moment privilégié pour moi-même, où personne ne peut rien me demander de faire, puisque c'est un moment qui est quelque part bloqué, j'attends mon avion, j'ai pas le choix. Et du coup, ça me donne une liberté de faire ce que je veux. Et je me suis retrouvée à avoir mon petit rituel où je m'assois à un café, je me prends un petit cappuccino ou un petit déjeuner ou un plat en fonction de l'heure qu'il est à ce moment-là, et j'ouvre un bon bouquin ou un bon magazine, et je passe mon heure comme temps pour moi. Du temps de relaxation, du temps serein, du temps où je suis seule avec mon livre, où j'ai aucune obligation, où j'ai nulle part d'autre où être, et où c'est quelque part quelque chose de très apaisant et de très serein. Et je vais vous dire, depuis, donc ça fait maintenant 8 ans que je travaille dans la communication et que je fais des voyages réguliers, et bien maintenant, non seulement je ne suis plus frustrée à l'idée de passer une heure à attendre à l'aéroport, mais j'attends ce moment-là avec impatience. C'est vraiment devenu un moment de plaisir pour moi. Donc voilà un exemple de la manière dont vous pouvez changer votre rapport au temps. Et ce principe-là, vous pouvez l'appliquer à de nombreux moments de votre quotidien. Le temps de transport que vous pouvez passer à écouter des podcasts ou à lire des livres qui vous plaisent, la queue au supermarché que vous pouvez passer à regarder des articles dans votre téléphone ou faire un jeu dans votre téléphone par exemple, quand vous attendez de récupérer vos enfants à l'école, voilà. Ou par exemple quand vous allez faire le marché pour faire vos courses, profitez-en pour vous promener, pour regarder un peu où en est la végétation à cette saison, voir un peu les légumes qu'il y a sur les étals. Faites-en un moment qui est agréable et un moment dont vous profitez, plutôt que d'en faire un moment que vous voulez vous dépêcher parce que c'est chiant et parce que vous voulez passer à la suite. Une autre manière d'apprendre à profiter un peu du moment présent, c'est d'utiliser les fêtes et autres moments récurrents du calendrier pour vous rappeler de prendre un petit peu de temps pour vous, de faire une petite pause et de vous faire une petite après-midi ou une petite soirée qui sera un moment où vous profitez soit vous-même, soit avec votre conjoint, votre famille ou vos amis. Par exemple, la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, Halloween, tous ces événements-là. Alors, évidemment, vous n'avez pas besoin de suivre ce que la société de consommation vous dit de faire ces jours-là. Je ne vous invite pas à aller acheter des petits cœurs à la Saint-Valentin ou des trèfles à la Saint-Patrick ou je ne sais quoi. L'idée, c'est plutôt d'utiliser ces fêtes-là comme des rappels, puisque de toute façon, ça arrive sur votre calendrier chaque année. Et d'utiliser ça comme une excuse, quelque part, pour se dire « Ah, ben, par exemple, ce soir, c'est la Saint-Valentin, je passe une soirée en amoureux, où on se réserve ce temps pour nous, pour en profiter, etc. » Ou alors, « Ce soir, c'est la Saint-Patrick, j'en profite pour inviter tous les copains à aller au pub et à boire ensemble, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. » Et en fait, dans le tumulte de la vie quotidienne, souvent, on ne pense plus à prendre un petit peu de temps pour nous de cette manière-là. Et le fait de s'appuyer sur des fêtes récurrentes du calendrier qui arrivent de toute façon, ça sert de rappel en fait, pour sortir un petit peu du tumulte du quotidien et de se dire « Ah tiens, là il y a la Saint-Patrick qui arrive le 17 mars prochain, je vais en profiter pour téléphoner à mes amis et leur proposer d'aller boire une pinte dans le pub du coin. » Il existe beaucoup d'autres idées et réflexions autour de l'idée de ralentir dans un milieu urbain et reprendre le contrôle de son temps, notamment autour de l'attention et des distractions dont nous vous avons parlé dans l'épisode 4 de Simplicité. Mais pour garder cette émission dans un format de taille correcte, je vais m'arrêter sur ces 4 conseils pour aujourd'hui. Donc, pensez bien à « faites-en moins, mais faites-le bien », apprenez à dire non, mettez vos tâches dans votre calendrier, partez plus tôt et planifiez large, et enfin, prenez le temps de savourer le moment présent. Je vais terminer cette émission de Simplicité en vous présentant la ressource du jour, qui est un livre. Le titre est « L'escargot est lent, mais il n'est jamais en retard », et l'auteur est Jung Mok, qui est une moniale bouddhiste coréenne. Ce livre-là questionne notre rapport au temps, là où Jung Mok donc nous parle de ralentir, mais surtout du fait que beaucoup de choses tiennent finalement de notre propre vision du temps, qui est quelque chose sur lequel on a du contrôle. Du coup, il me paraissait assez pertinent de vous présenter ce livre-là aujourd'hui, vu le thème du jour, puisque quelque part, pour ralentir dans un milieu urbain, qui est un milieu qui est accéléré, etc., et ça, vous n'avez pas le contrôle sur l'accélération de votre environnement, mais vous avez le contrôle sur votre rapport au temps et la manière dont vous décidez de voir votre temps et la manière dont vous passez votre temps. Et donc ce livre, « L'escargot est lent, mais il n'est jamais en retard », c'est un petit brin de philosophie dans des chapitres assez courts et des réflexions assez courtes à l'intérieur de ces chapitres-là qui invitent à la réflexion sur le fait de changer un petit peu son rapport au temps. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite vivement à découvrir ce livre. Ce sera tout pour l'émission d'aujourd'hui sur des idées pour amener un peu plus de lenteur et de plaisir dans le tumulte de la vie moderne. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager sous forme de commentaires sous les notes de l'émission sur le site simple-du-6-cité.com ou bien je vous invite à prendre contact avec moi, soit par mail, donc podcast@simple-cité.com ou sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me trouver sur Twitter, Facebook, Instagram, @floriteller. La prochaine émission sortira au plus tard dans un mois et son thème est dévoilé dans les notes de cette émission sur le site simple-cité.com. J'espère que l'émission vous a plu, merci infiniment de m'avoir écouté et belle journée, bonne soirée à vous!